France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, vous vous souvenez sans doute d'une scène fameuse de la Grande Vadrouille durant laquelle le chef d'orchestre Stanislas Lefort réprimande les deux bassonistes, les accusant de sans cesse bavarder au lieu de s'intéresser à leur partition. Au lieu de bavarder, ils auraient pu d'ailleurs noircir la dite partition qui semble offrir d'autres horizons qu'un simple alignement de portée. C'est ce que nous apprend Jean-Noël Croque, mon invité, qui, à la suite d'un long travail de recherche dans les bibliothèques de l'Opéra, a répertorié dans des partitions d'orchestre quantité de dessins, caricatures, messages et autres pensées. Il nous les transmet dans un livre aussi original que réjouissant, superbement illustré et mis en page. Fausse note, une autre histoire de l'opéra de Jean-Noël Croque aux éditions Première Loge. Le début de l'ouverture des noces de Figaro de Mozart, l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Georg Scholti. Bonjour Jean-Noël Croque.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes donc l'auteur de ce livre très très original qui nous fait découvrir tout un tas de dessins, j'ai dit caricatures, qui se trouvent sur tout un tas de partitions que vous avez trouvées donc, dans les bibliothèques de l'Opéra de Paris. Pourquoi l'Opéra de Paris ? Parce que vous avez été donc clarinette basse solo et clarinettiste de l'Orchestre de l'Opéra de Paris de 1974 à 2009. D'où vous est venue cette idée, Jean-Noël Croque ? Vous aviez déjà croisé tous ces dessins, caricatures dans les partitions qui sont dans la bibliothèque de l'Opéra ?
En vérité, j'en avais croisé assez peu,
ouais.
Sur les partitions de clarinette notamment. Donc, il y avait pas mal de signatures sur les partitions les plus usagées, où les musiciens prennent soin de noter que tel jour, ils ont créé la première spectacle, représentation de tel opéra. Donc oui, il y avait des annotations comme ça. Bien sûr, beaucoup d'annotations musicales, qu'on gomme en général d'ailleurs entre chaque série de représentations. Les volontés du chef ou des choses comme ça qu'il faut marquer.
Bien sûr, oui.
Ou des pense-bêtes musicaux de rajouter, attention ici, il y a un point d'orgue. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on trouve d'habitude sur les partitions. Mais non, c'est plutôt une rencontre fortuite. Vous savez, comme un peu comme un champignon va pousser dans un endroit qu'on n'entend pas du tout. une rencontre fortuite due au fait que bon, je suis musicien à l'opéra. Je suis aussi j'ai aussi un hobby, un violon dingue qui est la photographie de nature. Mm-hmm. Donc je m'intéresse à la photographie, à la macrophotographie notamment.
Les champignons.
Oui, éventuellement, enfin de tout ce qui est vivant d'ailleurs. Et j'avais remarqué donc des vieilles partitions qui me paraissaient très, très intéressantes, très, très belles. C'est-à-dire que le papier lui-même, déjà, le vieux papier était parcheminé, digne d'attention. Il y avait aussi la calligraphie des notes copiées à l'ancienne qui était vraiment, vraiment très, très, très belle. Donc tout ça, ça faisait un tout. Et j'avais envie de faire des macro-photos de ces partitions.
Ouais. Vraiment des détails, quoi.
Des petits détails, comme ça, de rentrer dans la partition. Et j'ai attendu d'être en retraite parce que je n'avais pas le temps pendant toute ma carrière de musicien très, très bien remplie. Donc je me suis mis à les photographier. Et puis je les ai montrés à mes collègues de la COPI. C'est là qu'on appelle la COPI, c'est le service de la bibliothèque d'orchestre, les gens qui gèrent le matériel d'orchestre, c'est-à-dire qui préparent les partitions pour l'orchestre. Et à ce moment-là, un des bibliothécaires, Étienne Charrier d'ailleurs, m'a montré des dessins qu'il avait photocopiés sur certaines partitions. Des dessins qui étaient formidables, des portraits de chefs d'orchestre, des choses très, très, très drôles. Bon. Et je me suis dit, mais tu en as beaucoup comme ça? Il me dit, oui, mais il y en a plein. En fait, il y en a, oui, il faut les chercher. Écoute, je vais les chercher. J'ai commencé à les chercher, voilà. Et là, je me suis pris au jeu de... Parce que j'ai trouvé des choses vraiment extraordinaires, quoi, au détour de pages comme ça, des portraits de Hitler, des dessins de paysages, des annotations toute une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'opéra a gardé 3 siècles de partitions. Alors déjà, le premier siècle, enfin, 17e, 18e siècle, ça m'a étonné, comme j'ai procédé à rebours, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à rebours vers Gluck et Rameau, etc., je n'ai plus rien trouvé. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'y a plus aucune annotation sur ces partitions?
C'était discipliné à l'époque.
Voilà, je me suis dit, est-ce que le pouvoir royal aurait discipliné les musiciens? Mais non, j'y croyais pas trop, donc j'ai cherché d'autres raisons. Fortuitement, je me suis dit, voilà, le crayon à papier a été inventé en 1796 par M. Comté, en France d'ailleurs, et d'autres pays d'Europe aussi, à peu près la même époque. Donc auparavant, les musiciens arrivaient au pupitre sans rien crier ni plume d'oie pour crier. Donc on écrivait rien sur les partitions. Et d'ailleurs, les partitions de musique baroque et classique, comme ça, comportaient très peu d'annotations, même musicales, de dynamique ou d'articulation. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc voilà. Et donc... Donc à partir de la fin du 18e, les musiciens se sont munis de leurs crayons à papier. Là, ils ont commencé à marquer des choses musicales, bien sûr, dessus. Et aussi...
Un peu moins musicales.
Voilà, et on s'en paraît certains, pas tous, beaucoup, ce sont des choses un peu exceptionnelles. Mais certains musiciens se sont emparés de leur partition, comme nous, on s'empare de notre téléphone portable. Et la partition est devenue calculatrice, appareil photo...
La liste des courses.
journal, aussi journal d'information. Par exemple, on dit
voilà... On griffonnait tout un tas de choses,
oui. Voilà, on trouve aussi bien la bataille de Sedan et que le premier Spoutnik en 1960. On trouve toute l'histoire, on trouve des dessins de toutes sortes et c'est voilà, tout un monde.
Thank you.
La Sicilienne, extrait de la suite française de Francis Poulenc avec Francis Poulenc au clavecin, mais également Paul Hougne, Maurice Allard au basson, Maurice André à la trompette. Pourquoi j'ai choisi cet extrait, Jean-Noël Croc, alors que ce n'est évidemment pas de l'opéra, mais ces musiciens apparaissent dans votre livre, soit sous forme de caricature, soit sous forme de citation. À un moment, on apprend que Maurice Allard a fait un pain dans je ne sais plus quelle œuvre. Vous parlez également de Maurice André. Avec vous, on plonge vraiment, pour parodier le titre de l'émission de Christian Merlin qui rédige d'ailleurs la préface de votre ouvrage, on est vraiment au cœur de l'orchestre puisqu'on apprend, on voit un peu toutes les anecdotes qui peuvent advenir pendant une répétition, pendant un concert d'orchestre. Vous parlez de plusieurs chefs d'orchestre, Scholti qu'on a pu entendre en ouverture, Boulez, Ozawa et bien d'autres. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou amusé, Jean-Noël Croc, durant cette recherche? Parce qu'il y a vraiment de tout, il y a des scènes extrêmement drôles, il y a des citations, il y a un moment... à côté du sextuple piano de Boris Goudinov, quelqu'un qui a écrit « Et ta sœur », et des choses comme ça, il y a vraiment des choses très drôles, des choses un peu plus grivoises, on va dire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre recherche?
Bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Hein. C'est aussi bien des choses belles et émouvantes que des choses iconoclastes. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories d'images. Il y a les images qui sont en harmonie avec la scène, ou le musicien qui a beaucoup de crayons, même parfois un excellent coup de crayon, magnifiquement, reproduit la scène un peu comme une enluminure sur la partition, avec en 2 cm, il fait toute la scène, tous les chœurs, tous les décors, enfin, c'est incroyable. Il y a aussi des portraits de chefs, comme celui de von Wengler, par exemple, qui est magnifique, qui est saisissant, et ça montre tout le respect, l'admiration que le musicien portait pour cet artiste. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont touchantes, qui sont magnifiques. Et il y a aussi beaucoup de choses, même encore plus d'ailleurs, de dessins qui sont iconoclastes, qui sont à la limite de la vulgarité.
Est-ce qu'il y a des choses justement que vous avez volontairement écartées, que vous n'avez pas voulu reproduire?
On peut trouver des choses bien sûr qui deviennent vraiment trop vulgaires, bien D'accord. sûr, suivant des... Mais... Donc, ces images iconoclastes sont souvent, la plupart du temps, sont drôles. C'est-à-dire qu'il y a très, très rarement des images, des notations au premier degré. C'est toujours dans l'humour, c'est toujours dans la dérision, c'est toujours dans le piano est ta sœur, par exemple. On peut imaginer que c'était Boris Goudounov, dirigé par James Conlon, Moussorski Ravel dû marquer 3P. Parce que 3P, c'est le maximum déjà. Pianissimo, voilà. Donc c'est pianississimo. Donc. Et Conlon avait dû dire là, les altos, c'est. Faites le moins. Niente, al niente, comme on dit, le moins possible. Alors, un musicien bien consciencieux avait rajouté trop 3P d'une façon un peu humoristique aussi. Bon, c'est. Pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépép et après le lendemain, la collègue a vu cette partition, vous s'est dit ouais ta sœur, voilà c'est tout, ça va pas plus loin que ça, mais c'est rigolo.
Et est-ce que le Jean-Noël Croc, est-ce que le contexte politique apparaît durant ces différentes caricatures ou citations ou pensées? Je pense notamment à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a des choses qui reflètent justement cette période de l'occupation?
Tout à fait, toutes les périodes historiques sont présentes depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a des petits dessins qui sont de la micro-résistance, on va dire. Par exemple, il y a un dessin où on voit la Corse en forme de main avec l'index tendu. Et c'est marqué le 23 octobre, je ne sais pas, c'est une date comme ça, octobre 1943, et ça se corse, parce que c'est la libération de la Corse, voilà. Donc, c'est des petits actes comme ça, mais très peu. Et après, à la libération, il y a beaucoup de dessins, la libération, etc. Bon, il y a aussi des remarques acerbes aussi, parfois, ils mettent aussi les chefs allemands qui sont dirigés en collaboration avec Emmeldorf, etc. Donc, en collaboration, bon. Et des choses comme ça. Puis à la fin de la guerre, il y a des dessins, on voit Pétain pendu, Laval, cette crapule. On voit les musiciens s'expriment comme ça. Il y a aussi des dessins avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Premier spectacle après la libération. Bon, voilà, les musiciens étaient contents, bien sûr. Oui, tout à fait.
Oh! jeder sich selbst. Wir lernten im Walde vom Tier. Wie anders schreitet sie als sonst. Wirten ist der heilige Tag, O Tag, der Sagabora gleichen. Gewiss zu ihrer Heile durft ich der armen Heut den Todes
Jérôme Heinès, l'orchestre du festival de Bayreuth dirigé par Hans Knappersbusch en 1958, un extrait du Parsifal de Richard Wagner. Jean-Noël Croc, Knappersbusch donc fait partie de ces chefs qui sont caricaturés très bien d'ailleurs, très joli coup de crayon dans votre livre Fausses notes. D'ailleurs, je dois préciser que fausse, c'est la fausse d'orchestre, ce sont pas les notes qui sont fausses, mais ce sont les notes qui viennent de la fausse d'orchestre. Il y a d'autres chefs, vous l'avez dit, on découvre Bruno Walter, Furtwängler, et vous-même faites part de votre expérience de musicien de fausse d'opéra, l'opéra de Paris. Vous mêlez des souvenirs et vous racontez comment justement les premiers contacts ou les premières notes sont toujours très difficiles. Vous rappelez l'expérience avec Karl Böhm, dirigeant un opéra d'Achard Strauss.
Oui, Karl Böhm, je décris Karl Böhm, dirigeant Elektra, enfin, le début du Elektra, oui. Voilà. Et comment, au moment du spectacle, tout l'orchestre est prêt à jouer, le maître arrive, est ovationné par la foule, et surtout vers les musiciens. Et là, tout l'orchestre est suspendu à la main de Karl Böhm, et chacun sait très bien qu'on ne comprendra pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire que son geste va être tellement improbable, imprécis, donc on ne sait pas comment on va commencer à jouer. Et ça commence à pam, 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 c'est une explosion sur trois
début,
notes.
Oui, hein. Bien sûr, ouais.
C'est Agamemnon. Ah,
ouais, tout à fait.
Et donc, au moment où il abaisse son poing, les deux premières notes sont arrachées parce qu'on ne peut pas les faire ta-ta-ta bien précises. C'est chiachant, paf, et ça explose sur la troisième. Et ça fait un effet absolument saisissant. On a l'impression que c'est le coup de hache qui a tué Agamemnon ou qui va tuer Clytemnestre, qui tombe sur la tête. Quoi. C'est d'un seul coup, on rentre dans le drame d'une façon déchirante et explosive. Quoi. Et c'est vrai qu'après, on a eu d'autres chefs qui prenaient bien soin de nous donner un signe bien clair. Ta-ta-ta. Bon, et là, c'était tranquille. voilà, donc... Et c'est un peu la magie de grand maestro qui va fédérer un orchestre par sa présence, et éventuellement par son imprécision aussi, pourquoi pas. Et voilà, et il va se passer quelque chose d'excessivement fort.
Donc, oui, vous parlez beaucoup de la relation entre les musiciens et le chef, et cette espèce d'alchimie que personne, en tout cas, personne de l'extérieur n'arrive à comprendre. On se dit comment ça marche, comment est-ce qu'ils arrivent à s'entendre avec peu de gestes, très peu de gestes, ou au contraire de grands gestes. Oui. C'est toujours une énigme pour le public.
Oui, c'est-à-dire que dans le livre, il y a deux catégories d'images de chefs. Il y a les chefs qui sont vénérés, qui sont très bien dessinés, et les autres qui sont caricaturés. Donc c'est cette image aussi que le public a de dire l'orchestre de l'opéra, c'est un tueur de chef, par exemple. C'est des musiciens qui sont terribles avec les chefs. Bon, voilà. Et c'est d'expliquer ce que c'est qu'au public, ce que c'est qu'un grand chef. C'est-à-dire pourquoi un tel musicien est un grand chef. Donc je me suis permis de faire le portrait de quatre chefs d'orchestre, qui ne sont pas forcément dessinés dans le livre, mais que moi, par contre, j'ai connu en tant que musicien, parce que malheureusement, je n'ai pas d'expérience avec Furtwängler.
avec Knappersbusch.
Donc, je me suis permis de décrire quatre grands chefs d'orchestre qui sont tous les quatre complètement différents. Donc, il y a Pierre Boulez, Georges Prêtre, il y a Georges Scholti et Seiji Ozawa. Donc, c'est des personnalités tout à fait, même parfois opposées, humainement, enfin, la façon de se comporter, physiquement aussi. Enfin, leur technique de gestes aussi est différente. Donc, je me suis permis de décrire ça, d'expliquer comment par quelle alchimie justement ce sont des grands chefs.
José Vandamme, l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Seiji Ozawa. C'était un extrait de Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen, enregistré en public en 1983. Jean-Noël Croc, vous étiez à ce moment-là donc dans la fosse de l'orchestre, sous la direction de Ozawa pour la création de cet opéra de Messiaen.
Tout à fait, je jouais la clarinette contrebasse. Et l'instrument de genre, j'ai appris plus tard que Olivier Messiaen disait à ses élèves de la classe d'analyse, sa célèbre classe conservatoire, mm-hmm. il disait l'instrument le plus laid de l'orchestre, c'est la clarinette contrebasse, il disait.
Et vous évoquez effectivement la création de cette œuvre, et puis également votre travail avec Ozawa, son allure totalement décontractée, à tel point que lors d'un concert à Saint-Denis, on n'a pas voulu le laisser rentrer, on pensait que qu'il n'avait rien à faire là, c'est ça?
Oui, il arrivait en tenue, enfin, il sortait de son entraînement de aïkido, il arrivait en jean, les cheveux longs, en chemise indienne, avec son sac de sport. Alors que c'était un concert où il y avait le président de la République, et nous, les musiciens, on entrait en queue de pied déjà. Bon, il est arrivé comme ça, et les vigiles étaient. Je ne voulais pas le laisser passer. Quoi. Alors, moi, j'étais juste derrière lui, j'ai dit au vigile, si, c'est le maestro. Ah, oh, ben, je ne savais pas, moi, bon, je ne veux pas savoir. non, je dis ça, j'ai plaisir à évoquer ça, parce que d'autres chefs d'orchestre, comme Georg Scholti, par exemple, il est arrivé en voiture de maître. En Rolls ou je sais pas quoi, avec un chauffeur, on lui ouvrait la porte, il serait arrivé. Voilà, c'est deux personnes totalement opposées.
Et musicalement, le rapport que vous conservez avec Seiji Ozawa, justement?
Pour moi, Seiji Ozawa, c'était quelqu'un qui dirigeait en se donnant. C'est-à-dire, quand il faisait un geste au musicien, un pupitre, c'était un geste de don, quoi. C'était pas un geste autoritaire de c'était toujours comme un don, quoi. Mm-hmm. Et j'ai le souvenir de lui aussi. C'était quelqu'un physiquement qui était justement qui faisait du aïkido. C'est-à-dire que c'était un très grand niveau de aïkido. Donc c'était un chef qui était qui dansait quoi,
qui, oui, son corps, souple, en plus,
son corps était souple, ouais. Et il était félin quoi. Il avait un côté félin qui faisait que la musique s'imprimait dans son corps comme ça, il l'exprimait. Il avait aussi toujours une gravité dans le visage et beaucoup d'expression dans ses yeux, dans son visage. Ce qui fait que voilà, on le regardait diriger, on n'avait plus qu'à se laisser porter, à sentir les expressions de son visage, l'impulsion de son corps, et on était dans la musique tout de suite. C'était voilà, c'était aussi quelqu'un de très simple qui venait manger la cantine avec nous. Bon voilà, il arrive son plateau. Bon, et voilà, c'était quelqu'un de, j'ai une énorme admiration pour lui parce que c'est vrai que voilà, c'est à la fois un grand chef d'orchestre, grand musicien et aussi un homme plein voilà qui était tellement bon, tellement sympathique. Voilà, c'était
très bien. Merci beaucoup, Jean-Noël Croc. Je rappelle le titre de votre livre, Fausse Note, qui vient de paraître aux éditions Première Loge. Un très beau livre à offrir ou à se faire offrir ou à s'offrir tout simplement. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Manon Houssin, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, nous resterons à l'opéra puisque nous parlerons de la Castafiore avec Albert Algou. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.